Une personne sage se prépare pour l'avenir. Les enfants ne vont pas à l'école seulement pour le plaisir d'apprendre, mais parce que leurs parents ont à cœur de leur donner les outils dont ils auront besoin plus tard pour réussir leur vie adulte. Les gens investissent souvent énormément pour que leur progéniture puisse fréquenter les meilleures écoles. Ils y consacrent de l'argent, mais également beaucoup d'énergie, en s'efforçant de leur transmettre eux-mêmes de bonnes valeurs et de les aider personnellement du mieux qu'ils le peuvent. À mesure qu'ils grandissent et qu'ils gagnent en maturité, plusieurs jeunes apprécient la valeur de l'éducation et travaillent fort afin de poursuivre leurs études. Oui, les gens sages sacrifient volontiers le présent pour préparer l'avenir. Ils pensent à long terme, souvent même plusieurs années à l'avance, afin de planifier non seulement leur éducation, mais aussi la suite de leur vie. Il n'en reste pas moins que même une longue vie n'est rien en comparaison de l'éternité, un simple clin d'œil en quelque sorte. Curieusement, la plupart des gens ne semblent pas vraiment intéressés de savoir si la perspective d'éternité est une réelle possibilité. Pourtant, si l'avenir qui nous est réservé risque de ne jamais prendre fin, il mérite d'être préparé avec soin. Il existe une croyance religieuse très répandue, selon laquelle une personne qui décède ne meurt pas vraiment. Et cette conviction prend différents aspects. Dans certains cas, les gens croient à la réincarnation. Ils pensent qu'après leur mort, ils vivront à nouveau, mais sous une autre forme, humaine, animale ou autre. D'autres, c'est le cas de la plupart de ceux qui se disent chrétiens, pensent être en possession d'une âme immortelle. Ils sont convaincus que leur corps périra, mais qu'il existe en eux quelque chose d'éternel qui, au moment de leur mort, se rendra soit au ciel pour être avec Dieu, ou encore dans un enfer de feu où ils souffriront éternellement. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Peut-on le savoir avec certitude? Oui, car la Bible explique en détail ce qui arrive après la mort. Et ce n'est pas du tout ce que pensent la plupart des gens. Restez à l'écoute. Salut à vous! Il faut dire que l'idée selon laquelle les humains ne meurent pas vraiment est bel et bien mentionnée dans la Bible. Mais vous serez surpris d'apprendre qui a introduit cette idée dans l'esprit des gens. L'histoire remonte à nos ancêtres à tous, c'est-à-dire à nos premiers parents. Dieu avait placé Adam et Ève dans un jardin magnifique, rempli d'arbres fruitiers, rapporte la Bible. Il les avait toutefois avertis de ne pas manger du fruit de l'un de ces arbres. Peu de temps après, Satan, appelé aussi l'adversaire, ayant pris la forme d'un serpent, s'adressa à Ève d'un ton sournois en lui demandant « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Elle lui répondit qu'il pouvait manger du fruit de tous les arbres, sauf de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle lui fit aussi connaître l'avertissement donné par Dieu. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Remarquez bien la suite. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Les paroles du serpent contredisaient la déclaration de Dieu et plaçaient Ève devant un choix. Croire Dieu, qui déclarait qu'ils allaient mourir, ou croire Satan, qui disait qu'ils ne mourraient pas. Le récit biblique des événements survenus dans le jardin étant très court, plusieurs personnes comprennent mal ce qui s'est passé. Il est vrai que le fruit défendu était celui de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais cela ne signifie aucunement que nos parents ne pouvaient pas différencier le bien du mal, qu'ils n'avaient pas été instruits par Dieu de ce qui constitue le bien, et de ce qui est le mal. Au contraire, car après les avoir créés, Dieu ne les avait pas laissés dans l'ignorance de ces choses. il leur avait communiqué les fondements indispensables de toute connaissance. Ce qu'est l'homme, pourquoi il existe, le but de la vie, la voie de vie qui procure la paix, la santé, la prospérité, le bonheur et la joie. Et c'est justement dans le cadre de cet enseignement que le Créateur leur avait interdit de prendre du fruit de cet arbre particulier. Car en goûtant de ce fruit, ils s'arrogeaient le droit de définir eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Malheureusement, Ève a laissé Satan la persuader que ce fruit pourrait les rendre sages. En réalité, rejeter la révélation de Dieu était un acte de folie. Décider ainsi de définir eux-mêmes la nature de ce qui est bien et de ce qui est mal, c'est d'ailleurs révélé être la première de toutes les mauvaises décisions prises, non seulement par nos premiers parents, mais aussi par leurs descendants. Il faut dire que la folie humaine manifestée ce jour-là n'a plus jamais cessé d'exister. Adam et Ève avaient donc rejeté les enseignements de Dieu et suivi le conseil de Satan. Dès lors, leur manière de voir les choses a commencé à changer. Ils ont soudainement eu honte de leur corps et ils ont tenté de le cacher avec des feuilles de vigne. Pourquoi? Parce que leur vision n'était plus la même. Voyons ce qui s'est produit. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Rappelons-nous qu'ils étaient alors les deux seuls humains sur terre et que le Créateur les avait placés, nus, dans le jardin. Dieu ne voyait là aucun problème. Et eux-mêmes, avant d'avoir parlé à Satan, n'y voyaient pas non plus d'inconvénients. Mais l'adversaire leur a appris à avoir honte et à craindre à cause de leur nudité. L'idée selon laquelle le corps serait quelque chose de honteux est un concept très ancien et on le retrouve sous plusieurs formes tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est la caractéristique particulière des philosophies dualistes selon lesquelles l'esprit d'une personne serait, en fait, l'élément éternel et réel de cette personne, alors que son corps serait temporaire, de moindre importance et constituerait même la portion honteuse de l'être humain. Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes et plusieurs autres philosophes ont contribué à répandre cette mauvaise compréhension de la nature de l'être humain. Il faut dire que le néoplatonisme a profondément influencé le christianisme traditionnel. Il émane directement du mensonge utilisé par Satan pour inspirer à Adam et Ève un sentiment de honte face à la création physique de Dieu. Le christianisme moderne a tellement subi l'influence du paganisme que ceux qui, de nos jours, se disent chrétiens, sont complètement aveuglés au sujet de ce que la Bible déclare vraiment en cette matière et sur bien d'autres sujets. Les personnes qui ont grandi dans le christianisme traditionnel ont malheureusement reçu un enseignement erroné. On leur a dit que leur âme est distincte de leur corps et qu'elle se rendra au ciel, au purgatoire ou en enfer, au moment de leur mort. Pourtant, l'Évangile de Jean rapporte exactement le contraire. Jean a écrit que personne d'autre que le Christ n'est monté au ciel, ce qui implique qu'Abraham, Jacob, Moïse et Daniel n'y sont pas. L'apôtre citait alors les paroles mêmes de Jésus. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais qu'est-ce au juste que cet élément qu'on appelle l'âme? La Bible mentionne-t-elle que l'âme se rend au ciel ou encore dans un lieu de tourment? Eh bien non, ce n'est pas du tout ce qu'elle déclare.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Votre ultime destinée ». Cette publication gratuite explore le but même de l'existence et révèle votre étonnante destinée. Vous pouvez également utiliser notre numéro de téléphone 1-800-857-2064 en nous laissant votre numéro de téléphone ainsi qu'un bref message et nous vous rappellerons dès que possible. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse Le Monde de Demain, boîte postale 409, Mississauga, Ontario, L5M0P6, Canada. Notre site internet www.mondedemain.org vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs.
Le mot « âme » que l'on retrouve dans l'Ancien Testament vient du terme hébreu « nefesh » et désigne tout simplement une créature ou un être. Voyons ce qui est écrit dans la Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme, une créature vivante. Remarquez que l'âme est ici qualifiée de vivante, ce qui implique qu'il peut y avoir des âmes non vivantes, c'est-à-dire sans vie. Le terme nefesh est également utilisé pour désigner d'autres créatures, car la Genèse mentionne aussi Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, nefesh, qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Remarquez que d'autres versets de la Bible confirment qu'une âme peut mourir. Voyons ce que mentionne le prophète Ézéchiel en rapportant les paroles de Dieu. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Peu après, il réitère cette vérité tout en révélant la justice de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. La Bible affirme donc clairement que l'être humain peut être totalement détruit. Voyons maintenant ce que rapporte l'apôtre Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr signifie bel et bien mourir. Ceux qui périssent dans l'écrasement d'un avion, par exemple, trouvent la mort et ils perdent la vie. Les propos rapportés par Jean montrent bien que l'homme n'a pas une âme immortelle. Mais ils indiquent aussi clairement que la vie éternelle pourra lui être accordée s'il remplit certaines conditions. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul mentionne que l'immortalité est quelque chose que les humains doivent rechercher. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Paul dit aussi aux Corinthiens, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Non, l'être humain n'a pas la vie éternelle. C'est justement parce qu'il ne l'a pas qu'il doit la revêtir. Plusieurs parmi nous ont grandi sans jamais lire la Bible. Nous avons simplement accepté les idées et perpétué les traditions qui nous ont été transmises par nos parents et nos amis. Nous avons ainsi accepté, comme des vérités, des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. C'est dommage, car il est beaucoup plus difficile d'avoir à désapprendre les erreurs de compréhension que nous avons acquises au fil du temps que d'apprendre la vérité dès le départ. Le commentaire biblique Jameson, Fawcett et Brown rapporte avec justesse « La notion d'âme indestructible nous vient de la philosophie païenne. L'immortalité est un cadeau que Dieu seul peut donner. » Dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, l'apôtre Paul parle lui aussi de l'immortalité comme d'un cadeau. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il ajoute plus loin, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et dans une lettre adressée à Tite, il mentionne, « afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Les véritables chrétiens espèrent la vie éternelle. Ils savent qu'ils ne la possèdent pas. En ce qui concerne la mort, la Bible explique de quoi il s'agit. Elle mentionne à plusieurs reprises que c'est un état d'inconscience. Le psaume 146 l'exprime clairement. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Leurs desseins périssent. Cela signifie que tous leurs projets, tous leurs rêves s'évanouissent. Ils n'ont plus conscience de ce qui se passe. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a écrit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » La Bible révèle beaucoup au sujet de la mort. Et il n'y a pas que dans l'Ancien Testament où elle est décrite comme un état d'inconscience. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean, entre autres, en parlent abondamment.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Votre ultime destinée ». Cette publication gratuite explore le but même de l'existence et révèle votre étonnante destinée. Vous pouvez également utiliser notre numéro de téléphone 1-800-857-2064 en nous laissant votre numéro de téléphone ainsi qu'un bref message, et nous vous rappellerons dès que possible. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse Le Monde de Demain, boîte postale 409, Mississauga, Ontario, L5M0P6, Canada. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs.
Nous pouvons lire dans les écrits de Jean le récit d'un moment spécial de la vie de Jésus. On avait demandé à Jésus de venir au plus tôt pour guérir son ami Lazare qui était gravement malade. Il a déclaré à ses disciples que Lazare était mort. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Tout comme Jésus, l'apôtre Paul a lui aussi comparé la mort au sommeil. Nous pouvons le lire dans la première lettre qu'il a fait parvenir aux Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Il faut dire que peu de temps après la fondation de l'Église, certains leaders qui se disaient chrétiens, mais qui avaient été séduits, ont malheureusement interprété les Écritures à la lumière des philosophies païennes qui avaient cours à ce moment-là. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs fortement influencés par les philosophes grecs. Ainsi, le théologien Origène, de même qu'un certain nombre d'autres dirigeants qui furent considérés plus tard comme des pères de l'Église, ont cru le mensonge de Satan. Ils ont adhéré au concept païen de l'immortalité de l'âme. En conséquence, la plupart de ceux qui se disent chrétiens de nos jours croient que les gens ne meurent pas vraiment. Ils pensent que les âmes de ceux qui ont fait le bien vont au ciel, alors que celles de ceux qui ont désobéi à Dieu vont dans un endroit bien différent pour y être éternellement tourmentés. Certains passages bibliques ont donc été mal interprétés par plusieurs, tout simplement parce qu'ils ont été examinés à la lumière d'un concept erroné. C'est précisément ce qui s'est passé dans le cas d'Apocalypse 14:11, où il est question de tourment. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Plusieurs ont cru que ce verset décrivait le sort réservé aux pécheurs incorrigibles, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce verset concerne en fait le jour du Seigneur, le jour où la colère de Dieu va s'abattre sur l'humanité rebelle pour lui enseigner une grande leçon. La nécessité et l'urgence de changer de conduite, d'abandonner la mauvaise voie et d'opter enfin pour la voie de vie enseignée par Dieu, celle qui procure le bonheur et une vie heureuse. Comme nous l'avons expliqué dans plusieurs autres de nos émissions, le jour du Seigneur s'échelonnera sur une année entière, durant laquelle les humains auront à souffrir une série d'épreuves déferlant sur eux les unes après les autres à un rythme soutenu. C'est pourquoi le verset mentionne que ces gens n'ont de repos ni jour ni nuit. Voyons maintenant ce que signifie le début du verset où il est dit que la fumée de leur tourment, la série d'épreuves qui les atteint, monte au siècle des siècles. Précisons que la fumée est produite par la combustion et que le feu s'éteint quand il n'y a plus rien à brûler. Mais la fumée, elle, reste en suspension longtemps après l'extinction du feu. Voilà pourquoi il est dit, de manière figurative, que la fumée monte au siècle des siècles. Cela semble effectivement interminable. Notez que le langage figuratif utilisé par l'apôtre Jean est fréquemment employé dans les conversations courantes. Par exemple, lorsqu'une personne qui attend en ligne déclare que la file est interminable, nous comprenons bien que cette file est tout simplement très longue. Elle lui semble interminable. Mais quel est donc le sort réservé aux incorrigibles? Qu'arrivera-t-il à ceux qui, après avoir vraiment compris de quoi il s'agit, bien évidemment, refuseront la vie heureuse que Dieu désire leur accorder? Par amour, Dieu les détruira totalement et définitivement, les empêchant ainsi de souffrir plus longtemps. La Bible mentionne en effet une destruction ultime par un feu intense qui consumera en entier ceux qui y seront jetés. Il s'agit d'une mort éternelle, appelée aussi la seconde mort, de laquelle il n'y a pas de résurrection possible. Voyons ce qu'a déclaré Jean-Baptiste au sujet du sort des méchants. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin dans la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Le prophète Malachie a écrit, « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Le feu étant par nature insatiable, il brûle aussi longtemps qu'il y a quelque chose à brûler. Après, il ne reste que la cendre et la fumée. La Bible est catégorique sur le fait que les humains sont des êtres mortels qui périront, à moins d'être graciés par Dieu. Le Dieu de la Bible est un Père aimant, qui a conçu et mis en œuvre un plan de salut pour le bonheur de toute l'humanité, dont le peuple d'Israël était une préfiguration. Voyons ce que rapporte le prophète Ésaïe. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Il dit encore, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Dans Jean 3, nous lisons, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, nous sommes des êtres mortels. Nous mourrons vraiment. Toutefois, nous n'irons ni au ciel, ni dans un lieu de tourment. Nous ne reviendrons pas non plus dans le corps de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Que pouvons-nous espérer? La Bible révèle qu'il y aura une résurrection des morts. En d'autres termes, tous ceux qui sont décédés reviendront à la vie. L'apôtre Paul a déclaré, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Jésus nous dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Dieu est juste et il est plein de bonté. Nous pouvons espérer. La Bible est remplie de déclarations formelles qui nous donnent espoir. N'oublions pas les paroles de Jean. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Christ a promis qu'à son retour, il accorderait la vie éternelle à tous ceux qui croiraient à son Évangile et qui agiraient en conséquence. Aux yeux de plusieurs, cette promesse semble vague et lointaine, un peu comme le droit d'aînesse semblait à Ésaü quelque chose de plus ou moins important. La Bible rapporte qu'Ésaü revenait un jour de la chasse, fatigué et affamé. Voyant que son frère Jacob avait préparé un bon potage, il lui en demanda un bol. Ésaü était un homme qui vivait en fonction du moment présent, sans trop se soucier de l'avenir. Aussi, quand Jacob, son frère, lui proposa d'échanger son droit d'aînesse, un héritage très spécial destiné à l'aîné d'une famille, contre le bol de potage, il accepta tout de suite. Il troquait ainsi une grande bénédiction future pour un simple bol de lentilles. Cette bénédiction spéciale était d'ailleurs beaucoup plus importante qu'aucun des deux frères ne pouvait l'imaginer à ce moment-là. Il nous faut tous faire attention, car il est malheureusement possible de commettre la même erreur. Ne négligez pas de préparer maintenant votre avenir. Prenez au sérieux votre ultime destinée. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Votre ultime destinée ». Cette publication gratuite explore le but même de l'existence et révèle votre étonnante destinée. Vous pouvez également utiliser notre numéro de téléphone 1-800-857-2064 en nous laissant votre numéro de téléphone ainsi qu'un bref message et nous vous rappellerons dès que possible. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse Le Monde Demain, boîte postale 409, Mississauga, Ontario, L5M0P6, Canada. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs.
Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.